Andy reconnu pour sa droiture. Fracture les Andy, des conditionnaires.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. C'est la rentrée du groupe d'Évreux d'Amnesty International qui reprend pour la cinquième saison. Ça fait cinq ans qu'on est sur l'antenne déjà. Pour la cinquième saison qui reprend ses émissions mensuelles, toujours le dernier mardi de chaque mois. Donc n'oubliez pas de mettre une petite note sur votre agenda. Le dernier mardi de chaque mois, une heure d'émission, 19h-20h en direct sur l'antenne de Principe Actif. Et bien sûr, l'émission est mise très rapidement après en podcast. Vous pouvez la réécouter.
Voilà, tout le mois, voire toutes les années.
Nous regarder, pas
nous regarder,
oui.
Ah,
mais si, ils nous voient presque.
Oui, c'est la télévision, la radio et la télévision Principe Actif. Qui des fois vaut mieux pas nous voir.
T'as pas entièrement tort.
Bon, plaisanterie mise à part. Donc, comme d'habitude, ce soir un menu avant de passer à table, un menu très chargé. Donc, on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. On va quand même dire qui est autour des micros. Il y a Sabine.
Bonsoir.
Il y a Edith.
Bonsoir.
Il y a Ronan, chargé de la technique, comme toutes nos émissions.
Bonsoir.
Et moi-même, vas-y Ronan. Mon nom.
Didier.
Ah ben on voilà. pense que c'est Didier. Mais
Didier, il est
reconnu.
Tellement connu de tout le monde sur Évreux que on le présente même plus.
Bon, donc ce soir, un gros morceau de l'émission va bien sûr être consacré à la crise des réfugiés, principalement à la crise des réfugiés syriens, qui fait bien évidemment la une de l'actualité sur tous les médias depuis pas mal de semaines. On va en parler et on va vous donner le point de vue et les positions d'Amnesty et aussi nos actions par rapport à ça, parce qu'on n'a pas attendu que les médias s'en occupent pour nous en occuper. Nous, ça fait très longtemps qu'on parle de ça et qu'on agit pour ça. Également, on va vous parler de Rome, à propos d'un film qu'on a passé très récemment. Non, pas la ville de Rome.
Non,
la population.
Rome.
Ah, d'accord.
La population Rome.
C'est Cassandra.
Tu étais en vacances à la ville de Rome cet été, Ronan?
Oui,
non, pas du tout, c'était un peu...
T'aurais pu. Paris, c'est une très belle ville, je ne connais pas.
Je ne sais pas, je ne connais pas non plus, moi. Je connais Venise, mais je ne connais pas Rome.
Bon, donc, on a passé un film qui s'appelle Spartacus et Cassandra au début du mois au cinéma.
Ronan, il était encore en vacances. Il ne l'a pas vu.
Voilà.
J'étais pas en vacances et tout, j'étais en formation.
Bon. Ouais, mais il ne l'a pas vu.
Et donc, voilà. Donc, on va en parler. On va vous parler aussi de l'ONU et de l'Arabie Saoudite. Je sais qu'il y a Sabine qui piaffe d'impatience.
Elle trépigne derrière son micro.
Pour vider son sac par rapport à l'élection de l'Arabie Saoudite en tant que responsable de la commission des droits humains au sein de l'ONU. Mais on ne va pas tout vous dire tout de suite. On va vous garder le suspense pour tout à l'heure. Et puis, on va commencer tout de suite par une excellente nouvelle. On en a plein de bonnes nouvelles ce soir, hein, comme souvent. Mais là, vraiment, cet été et ces dernières semaines depuis...
Cette semaine, depuis 15 jours ou 3 semaines,
il y a énormément de bonnes nouvelles qui nous arrivent et on est très contents. Et il y en a une, effectivement, sur laquelle on est particulièrement fiers. Là, je pense qu'on peut utiliser le terme, qui est la libération imminente. Ça va se passer dans les jours qui viennent, de Shaker Hammer, qui est un des plus anciens prisonniers d'opinion politique. À Guantanamo.
Depuis 2002, il était détenu.
Il est détenu depuis 2002 à Guantanamo, sans inculpation ni procès.
Et qui était libérable depuis quand?
Depuis 2007.
Voilà,
l'administration Bush...
durable depuis 2007.
Il était deux fois libérable.
Oui, et l'administration Bush l'avait déclaré une première fois libérable en 2007. Depuis, il ne s'est rien passé. Donc voilà, on a agi pour lui. On va vous en reparler un petit peu après, ce qu'on a fait aussi pour lui, parce que, bon, encore une fois, on en est fiers, et ce n'est pas de la fierté mal placée.
On est surtout contents pour lui. Hein. Ouais.
Bien évidemment.
Enfin, il faut qu'il sorte vite avant qu'il change d'avis.
Oui, hein, non, mais c'est sûr. Non, ça a été confirmé par les autorités américaines et par les autorités de Grande-Bretagne, puisqu'il est, c'est un ressortissant anglais.
Mais je suis un petit peu d'accord avec Sabine, parce que plusieurs fois, on devait faire Guantanamo.
Là, c'est pas...
Non, mais je sais bien que c'est vrai.
Donc, on va déjà vous passer tout de suite pour vous rafraîchir un peu la mémoire. On vous en a parlé, mais vous rafraîchir un peu la mémoire de l'histoire de Guantanamo. de Guantanamo. Oh, quel jeu de mots. De Shaker Hammer à Guantanamo. J'ai fait un résumé. C'est donc une petite vidéo.
C'est
comme moi, on ne voit pas.
Non, c'est le son d'une vidéo que j'ai récupérée tout à l'heure et qui est faite par Nathalie Berger d'Amnesty International à Paris, qui est la responsable des États-Unis pour Amnesty France. Donc c'est elle qui parle du cas de Shaker Hammer. Écoutez, c'est un très bon résumé de son histoire.
J'espère que je ne vais pas mourir dans cet endroit horrible. Je veux embrasser mes enfants et les voir grandir. Mais si c'est la volonté de Dieu que je meure ici, alors je veux mourir dignement. J'espère que si le pire du pire arrive, alors mes enfants comprendront que je prenais soin des droits des gens qui souffrent autour de moi presque autant que je me suis occupé d'eux.
Shaker Hammer est d'origine saoudienne. Il est marié avec une Britannique. Il a vécu en Angleterre avant d'être arrêté. Il a 4 enfants. Shaker travaillait en Grande-Bretagne comme traducteur, en particulier auprès des réfugiés. C'est un homme qui est très soucieux des autres, que l'on pourrait qualifier de défenseur des droits humains. Shaker est parti en Afghanistan pour travailler avec une association humanitaire et il est parti un tout petit peu avant les attentats du 11 septembre. Il a été arrêté après les attentats du 11 septembre, vendu par la famille dans laquelle il s'était réfugié par peur justement de se faire arrêter. Il a été détenu ensuite à Kandahar et à Bagram avant d'être envoyé à Guantanamo où il a été torturé très sévèrement. Shaker Hammer, depuis 2007 et à plusieurs reprises, a été déclaré par les autorités américaines libérable. La Grande-Bretagne, comme l'Arabie Saoudite, ont dit qu'il pouvait parfaitement bien rentrer chez lui dans un de ces deux pays et qu'il ne serait pas mis en prison parce qu'il n'y avait aucune charge retenue contre lui. Shaker Hammer ayant subi de tels traumatismes du fait des tortures qu'il a subies, du fait de sa détention prolongée à Guantanamo, du fait des multiples grèves de la faim qu'il a pratiquées, son état de santé est dramatique. Il a des troubles psychiatriques qui vont nécessiter des années de traitement. Il a des troubles physiques avec des atteintes rénales, il a des œdèmes des membres inférieurs, il a des troubles visuels. Sur le plan psychiatrique, il a des hallucinations, il a des bruits dans les oreilles. Nous demandons que Shaker Hammer soit libéré de Guantanamo. Nous demandons que Shaker Hammer puisse être réuni avec sa famille, tout simplement parce qu'il a été déclaré libérable et parce que c'est un homme qui est en train de mourir à Guantanamo.
Donc voilà l'histoire de Shaker Hammer qui est résumée de façon très poignante par Nathalie Berger. Et vous pouvez trouver la vidéo avec les images en ligne sur amnesty.fr. Elle a été mise en ligne aujourd'hui. Alors la grande nouvelle, effectivement, c'est que maintenant, c'est absolument certain, dans les jours qui viennent, Shaker Hammer va être libéré de Guantanamo et va pouvoir rentrer chez lui en Grande-Bretagne. Ce qu'on peut ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que c'est une campagne effectivement qui dure depuis des années pour Amnesty International. On vous dit souvent quand on fait nos émissions qu'Amnesty ne lâche jamais quand on défend quelqu'un. Et là, c'est un cas tout à fait exemplaire de la ténacité avec laquelle on agit. Donc ça fait des années qu'on réclame sa libération, ça fait des années qu'on se casse les dents, on pourrait dire qu'on se heurte contre l'administration, les différentes administrations américaines et de Grande-Bretagne qui nous envoient des fins de non-recevoir. Et très récemment, en fait...
Ils doivent se rappeler, oui. En juin, on vous a parlé de Shaker Hammer. Qu'est-ce qu'on avait fait en plus ?
C'est ce que je voulais dire, effectivement. La campagne de défense de Shaker Hammer a pris une tournure tout à fait particulière cette année, puisque Amnesty avait décidé. Alors, ce qui se passait, c'est que Shaker Hammer se considérant lui-même comme n'étant absolument pas un prisonnier, entre guillemets, politique. C'est-à-dire qu'en fait, il a été arrêté alors qu'il était dans une organisation humanitaire pour aider les Afghans. Il ne voulait absolument pas rentrer dans la, entre guillemets, dans la combine de l'accusé qui aurait besoin de se défendre par rapport à un chef d'inculpation qu'on ne lui a jamais donné, parce qu'il n'y en avait pas. Donc, il a refusé de coopérer en disant depuis le début, mais je n'ai rien à faire ici, je dois être libéré, et je n'ai rien à dire, et je n'ai rien à vous dire, qu'il disait aux autorités américaines. Donc, il a été très mal vu par rapport à ça. Il a effectivement été torturé, considéré comme un terroriste très dangereux. Et donc, il a maintenu cette position pendant des années et des années. Et récemment, n'ayant plus tellement de recours par rapport à ces situations, ces derniers mois, il avait entamé une grève de la faim pour dire effectivement, c'est le dernier recours qui me reste pour défendre mes droits. Je vais commencer à faire une grève de la faim, toujours sur le même principe. Je n'ai rien à avouer puisque je n'ai rien fait. Je n'ai rien à faire ici. Je dois rentrer chez moi. Et donc, bon, cette grève de la faim, effectivement, était évidemment dangereuse pour sa santé à terme, mais les autorités américaines ont décidé de l'alimenter de force. Et donc, il a été gavé, ça s'appelle comme ça, il a été gavé 2 ou 3 fois par jour pendant des mois, alimenté de force. À la suite de ça, Amnesty a décidé de faire une campagne plus précisément orientée envers le personnel médical pour montrer que ce gavage de force était une forme aussi de torture qui empêchait en fait les gens de continuer à protester, même si la forme de protestation qu'ils utilisaient était dangereuse, puisque la grève de la faim évidemment est dangereuse, mais que c'était le seul recours qui lui restait. On a donc fait un certain nombre d'actions, et nous ici à Évreux, le groupe d'Évreux, on a eu la chance, grâce à Georges Remond qui est militant de notre groupe et qui est un ancien médecin hospitalier, on a pu faire effectivement une table au mois de juin, au début du mois de juin, où on a fait signer près d'une quarantaine d'agents hospitaliers, médecins, infirmières et autres, qui ont signé une lettre à destination de l'administration de Barack Obama, protestant contre la situation de Shakir Hammer et contre la situation d'obligation de gavage forcé qui était faite aux autorités médicales dans le cadre de Guantanamo. Bon, tout ça se sera ajouté aux actions qui se passaient depuis des années pour lui dans le cadre d'Amnesty. Ces lettres ont été envoyées. Amnesty France en a récupéré à peu près 300 à l'heure actuelle qui ont été transmises à l'administration américaine, donc une quarantaine venant du groupe d'Évreux. On n'a pas à être à rougir du tout, loin de là, de notre participation. Et on est bien persuadé que si effectivement à l'heure actuelle Guantanamo va pouvoir Guantanamo décidément, Shakir Hammer,
voilà. Je l'appelle. Je crois qu'il va plus parler de Guantanamo.
Voilà, c'est un lapsus révélateur, deuxième fois. Donc c'est si Shakir Hammer peut rentrer chez lui, et ben c'est aussi grâce à l'action de tout ça. De ce qu'on a fait avant, des pétitions, de l'action du personnel médical. Il est évident qu'à force, à force de faire bouger les choses et de secouer le cocotier, comme on dit, bah, bien évidemment, les administrations finissent par reculer. C'est encore un exemple de genre de victoire qu'on peut obtenir.
Faut être tenace. Que ça marche.
Bon. Et déjà, alors on a déjà une... Ce n'est pas dit dans le petit reportage que vous avez entendu, mais on a déjà un début de témoignage de la famille, non pas de Shakir Hammer directement, parce qu'il est toujours, pour l'instant, surveillé dans le cadre de Guantanamo, évidemment, même s'il le sait maintenant qu'il va sortir. Mais on a déjà le témoignage de son fils, enfin un de ses fils qui est à Londres, et qui a déjà envoyé une lettre de remerciement aux différentes structures d'Amnesty qui ont agi pour eux, pour sa libération, et qui disent déjà « Mon père va revenir après 14 ans d'enfermement. On n'y croit pas encore. On pleure et merci beaucoup. » Voilà.
Et on est très contents, nous.
Donc, pour nous, c'est effectivement tout à fait symbolique de ce qu'on peut faire. Et encore une fois, c'est une action qui a pris une dimension importante avec l'aide du personnel médical. J'en profite pour remercier évidemment Georges, notre ami qui a largement participé à cette initiative. Et l'ensemble du personnel, on a pu rencontrer le comité d'éthique, entre autres, de l'hôpital avec lui, et qui a accueilli tout à fait favorablement notre demande et qui nous a permis de tenir ce stand et de se mobiliser pour ce cas-là et contre les gavages forcés, forme de torture pour les gens qui utilisent la grève de la faim comme forme de protestation. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, on a plein d'autres bonnes nouvelles dans l'émission, donc vous les aurez. Mais là, on va changer complètement de sujet. On va vous parler donc de notre présence au cinéma. C'était quand ? C'était au début
du
mois.
J'ai plus la date. Le 8 septembre.
Alors, le mardi 8, on était au cinéma à Évreux et on remercie. On en profite pour on lui a déjà dit, mais pour remercier la direction du cinéma qui nous a très gentiment accueillis. Voilà.
Et qui nous a permis de diffuser un film qui n'était pas passé à Évreux, qui est sorti l'année dernière, je pense à peu près, et qui s'appelle Spartacus et Cassandra. Et c'est un film qui parle du sort de 2 jeunes enfants qui vivent dans un campement rom. Et c'est un film qui nous a vraiment beaucoup plu dans sa façon d'être tourné, avec beaucoup de poésie, beaucoup de liberté dans la position de la caméra, des témoignages de ces jeunes tout à fait authentiques. C'est un film qui a été soutenu par Amnesty parce qu'il considère que, effectivement, à travers l'histoire de ces deux jeunes, donc qui s'appellent Spartacus et Cassandra, qui sont un peu en déshérence avec une problématique familiale importante, un papa qui n'assure pas l'éducation et une maman qui souffre de maladie. C'est un regard sur la communauté rome, non pas du tout parce que c'est le cas de tout jeune, absolument pas. Hein. Il y a des familles roms qui tiennent tout à fait la route et qui s'occupent de leurs enfants. Mais c'est un focus sur ce qui se passe en Europe par rapport aux roms. Et les qualités cinématographiques de ce film sont vraiment exceptionnelles parce qu'elles abordent cette problématique par le regard des enfants. Donc c'est un film qu'on vous conseille au niveau, on va dire, cinématographique. Et on va un peu vous expliquer ce qu'on a vu. On a une intervenante de Paris aussi a permis un débat de qualité et une parole authentique puisque cette jeune femme va très souvent dans les campements roms et connaît tout à fait ce qui se passe à l'intérieur des campements, a des contacts privilégiés.
Mmh. Elle agit sur les campements roms depuis 3 ans, nous a-t-elle dit, effectivement, et c'est sa principale intervention dans le cadre de ce qu'elle fait pour Amnesty.
Et il faut savoir que le DVD il est sorti depuis le 1er septembre, donc les gens s'y veulent l'acheter.
Voilà, ceux qui ont loupé, parce que c'est vrai que le 8 septembre, c'était la rentrée, même notre pub à nous, ça a été compliqué à faire. On sait qu'il y a plein de gens qui ont... Ah bon, il y avait un film. Bon, d'accord, voilà. Donc, voilà, Ronan, très bien. Séance de rattrapage, Spartacus et Cassandra, pour tout public, aussi bien public de jeunes hein, et que public d'adultes, vraiment...
Complètement. Et c'est vrai que, enfin, je te coupe, mais c'est vrai que l'approche cinématographique est tout à fait originale parce que c'est à la fois, en fait, c'est un reportage, mais en même temps, c'est un reportage qui mêle des qualités cinématographiques tout à fait intéressantes. Et en fait, ça aborde le problème de la répression, enfin, entre guillemets, que subit la communauté rome à longueur de temps, mais pas sous l'aspect militant. Pas sous l'aspect, on veut vous démontrer ou vous montrer des choses. Il montre des choses sans grand discours, simplement en voyant le quotidien de ces deux enfants, tout ce qu'ils rencontrent comme problème, c'est leur problème à l'école, comment ils abordent les choses, leur problème dans leur entourage, et comment ils trouvent des solutions. Et ça explique plein de choses sans rien vouloir démontrer en tant que tel.
Voilà, tout à fait. Alors, je vais commencer avant de rappeler un petit peu comment sont arrivés les Roms en Europe, combien ils sont. Il y a eu un communiqué de presse d'Amnesty qui date de 2013, mais qui est tout à fait encore valable, et qui Amnesty l'a appelé les chiffres de la honte. Alors, il y a entre 10 et 12 millions de Roms qui vivent en Europe. La moitié d'entre eux environ résident dans les États membres de l'Union européenne. 8 foyers Roms sur 10 sont menacés de pauvreté dans l'Union européenne. Les 3/4 des Européens reconnaissent que les Roms sont en butte à la discrimination. La majorité des Européens, 53%, pensent qu'une meilleure intégration des Roms profiterait à l'ensemble de la société. En 2012, 34% des Européens estimaient que les citoyens de leur pays seraient mal à l'aise, et 28% seulement plutôt à l'aise, à l'idée que leurs enfants aient des camarades de classe Roms. En Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie et en Bulgarie, plus de 120 agressions violentes graves, à l'arme à feu, à l'arme blanche et au cocktail Molotov, notamment, ont été commis contre les Roms et leurs biens entre janvier 2008 et janvier 2012. Alors les Roms, c'est un nom qui a été choisi par la Commission européenne en 1974. Ça correspond à deux peuples, les Sinté et les Kali. Les Manouches, les Gitans. Voilà. On a appelé Roms, donc on a dans ces appellations des gens qui viennent du nord de la France, du sud. Les Roms font à peu près 70% de sa population. Alors les Roms, ce sont des personnes qui ont été discriminées partout en Europe. C'est une discrimination très ancienne. Ils ont souffert d'esclavage. Ils viennent du sous-continent indien. Ils ont toujours été à la marge de la société. Quelque chose qu'on oublie un peu, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été exterminés. Quelques milliers simplement survivent. Mais au procès de Nuremberg, l'extermination des Roms, des Tziganes, n'a pas été évoquée, ni cela par rapport à un public après la guerre. Aujourd'hui, ils sont stigmatisés collectivement. Et ils sont très souvent, trop souvent, assimilés à la délinquance et à la criminalité. Certains partis d'extrême droite, comme ceux de Grèce, Aube Dorée, ou ceux de République tchèque ou de Hongrie, en tchèque ça s'appelle l'Aube démocratie directe, et en Hongrie, Jobbik, les considèrent pratiquement comme des animaux. C'est du racisme vraiment extrêmement dur. Leurs conditions de vie sont déplorables de toute manière. Et ils souffrent de nombreuses violations de leurs droits. En Roumanie, il y en a 2 500 000, à peu près 10% de la population. Ils sont rejetés, ils sont pauvres, et de plus en plus pauvres dans la Roumanie actuelle. En France, on en accueille 18 000. Et on peut rappeler que depuis janvier 2014, ils ont un libre accès au marché du travail en plus. Hein, ce que souvent les gens ne savent pas. Ben oui, ils sont européens. Ils viennent.
Bien sûr.
Voilà, ils ont tout à fait une
possibilité. Ils ont le droit de circuler en Europe comme n'importe quel citoyen européen.
Il y avait une carte encore avant, il y avait une demande par rapport au travail et maintenant c'est terminé.
Oui.
Donc très souvent, ils vivent dans des campements illégaux. Et très souvent, ils sont expulsés sans solution et donc privés de leurs droits essentiels par rapport aux enfants, par rapport à la santé, par rapport à la domiciliation. En 2012, en France, il y a une circulaire pour accompagner l'évacuation des campements illicites. C'est-à-dire que l'on devait pouvoir utiliser des solutions de relogement. Mais depuis 2014, ce n'est pas effectif. Et dernièrement, cet été, il y a eu plusieurs camps qui ont été complètement évacués. Il y a eu des camps très anciens de la Courneuve, de Bobigny, qui ont été évacués. Et la plupart du temps, il y a même des fois pas de respect de la trêve hivernale. Très souvent, les camps sont vraiment peuvent souffrir d'incendies, d'inondations. Il y a eu aussi cette année des jeunes enfants qui sont morts parce que dans les baraques, il y a des incendies. Et surtout, l'évacuation de ces camps, quand cela est décidé, cela est fait sans respect des objets et des lieux. C'est-à-dire que, allez voir des vidéos sur Internet, voilà, il y a les engins de chantier qui écrasent les baraquements. Et dedans, on voit les doudous, on voit les vêtements, on voit les livres. Ils n'ont absolument pas le temps de prendre leurs affaires. Cela n'est pas possible. Et la dernière évacuation du camp dont nous avait parlé l'intervenante...
Isabelle,
une dame était partie travailler. Ben oui, parce que les Roms aussi ils travaillent. Mmh. Elle revient, elle n'a plus rien. Plus de maison. Non, mais je crois que les gens aussi s'imaginent toujours la délinquance.
Bien sûr.
Et donc, elle revient, elle n'a plus rien. Le baraquement a été écrasé, elle n'a plus rien. Elle avait tellement honte qu'elle n'a même pas pu aller avoir de l'aide pour dormir. Elle a dormi dehors et c'est au bout de 2-3 jours que les gens autour des camps, les gens qui, au niveau social, essayent de les soutenir, ont pu la récupérer. On imagine le traumatisme. Là, c'est une adulte. Mais moi aussi, je pense souvent au traumatisme des enfants, quoi, qui n'ont plus rien.
Et il faut remarquer quand même que c'était juste après la rentrée scolaire. Donc, ce qui veut dire que tous ces enfants ne sont plus scolarisés, qu'ils avaient une domiciliation, enfin que tout a été fait et qu'ils n'ont pas été relogés. C'est les éjecter pour les éjecter.
Voilà, donc, c'est-à-dire que la position d'Amnesty, c'est qu'en plus...
C'est inhumain.
En plus, c'est au niveau d'un angle juridique, il n'y a pas de respect de leurs droits humains et que souvent les expulsions sont menées par les propriétaires des terrains avec l'accord du maire ou du préfet et que cela ne correspond pas au travail qui est commencé sur les campements. Parce qu'il y a de l'argent qui est donné aussi pour pouvoir soutenir les Roms et les amener vers un travail, vers une scolarisation des jeunes. Donc cela coûte de l'argent et le fait de les expulser des campements, c'est remettre tout à zéro. C'est-à-dire quand une famille est suivie, que les jeunes sont scolarisés, eh bien voilà, ils partent. On ne sait pas où ils vont partir, on ne sait pas où ils vont atterrir. Et tout ce qui a été mis en place est à refaire. C'est un éternel recommencement
oui.
Et sans solution. Et en mettant ces gens dans une précarité et dans une souffrance qui fait qu'effectivement, ils se trouvent complètement démunis.
Ben, je pense qu'il y a une image très simple à avoir, en dehors du fait que ces gens sont dans des campements précaires. Encore une fois, Amnesty ne défend pas le bidonville, entre guillemets, pour le bidonville. Mais ça leur permet d'avoir un début de vie sociale, et de pouvoir scolariser leurs enfants. Ouais. Et à chaque fois, c'est retour à la case départ. Donc c'est toujours dramatique.
Ils avaient peu.
Et donc, imaginez que vous ayez un appartement ou un logement et qu'on vous foute dehors et qu'au bout de 2 ans, on vienne vous foutre dehors et qu'au bout de 6 mois après, on vienne vous foutre dehors. Imaginez ce que c'est qu'une vie comme ça. Et bien, c'est la leur.
Voilà. Et ils avaient peu et là, ben, ils n'ont rien en l'espace de...
Voilà, donc il y a vraiment des contradictions. Déjà, de toute manière, la France ne respecte pas le relogement. Le travail social qui est mis en place avec les familles est mis à bas à chaque expulsion. Les jeunes ne sont pas scolarisés.
Aussi d'ailleurs de l'argent qui est mis pour essayer de venir en aide effectivement à ces populations. Ben, faut recommencer. Donc c'est des gaspillages d'argent systématiquement. C'est une stupidité redoutable.
Et alors, il y a une charte qui a été faite avec Amnesty et d'autres associations qui soutiennent les Roms. La charte s'appelle « Pour le respect et la dignité des occupants des terrains ». Oui. Et il faut aller la voir parce que justement, elle reparle de tout ça. Elle parle de façon posée sur ce que l'on peut faire et comment on peut faire pour que les populations s'intègrent, surtout par rapport aux jeunes qui sont tout à fait en demande de scolarité. Et justement, Renan va pouvoir nous faire écouter un petit peu de témoignage. On sait que c'est un camp qui a été les jeunes ont été expulsés pendant cet été. Et le témoignage, il date du mois de juin par rapport à une prise de son d'Isabelle, de la chercheuse. Oui,
c'est elle qui a fait le reportage que vous allez entendre. Voilà.
Donc écoutez.
Est-ce que tu veux bien me dire comment tu t'appelles ?
Oui, je m'appelle Rebecca et j'ai 12 ans.
Mmh. Tu es en quelle classe ?
CM2.
Mmh. D'accord. Et tu es dans cette école depuis combien de temps ?
3 ans.
3 ans.
Oui.
Mmh. Comment ça se passe ?
Ça se passe trop bien. J'aime l'école trop beaucoup.
Tu aimes beaucoup l'école ?
Oui.
Et le soir, quand tu rentres de l'école, où est-ce que tu fais tes devoirs ?
Dans la baraque.
Dans la baraque ?
Oui.
Ouais. Est-ce que dans la baraque, est-ce que tu as de l'électricité ?
Non.
Non ? Tu n'as pas d'électricité ? Et alors, comment ça se passe ?
Il y a une lumière comme ça.
Une petite lumière, oui.
Et je mets comme ça et je vois écrit.
Oui. Vous avez un moyen de chauffage dans la cabane ? Vous avez
oui, il y a ici.
C'est quoi ce moyen ?
Un bidon.
Un bidon, oui. D'accord.
Et on fait du feu.
Nous, on fait du feu. Et parfois, est-ce que la maîtresse, par exemple, elle te demande des choses que tu peux pas faire parce que tu vis ici et que tu n'as pas l'électricité ou que tu n'as pas internet ou des choses comme ça. Est-ce que la maîtresse vous demande des choses qui sont compliquées pour toi ?
Non.
Non ? Elle vous demande.
Parce qu'elle sait qu'on habite dans les bidons.
Donc elle te demande, elle le sait. Donc elle fait attention à ça, de pas te demander des choses qui sont compliquées pour toi.
Mmh.
D'accord. Est-ce que tu arrives à te concentrer pour faire tes devoirs ? C'est compliqué ?
Oui.
Hmm. Eh oui, parce que vous êtes nombreux.
Oui.
Qui c'est qui vit dans cette baraque-là avec toi ?
Il y a mon père, ma mère, Samuel, Madeline, moi et Maria.
Ouais. Et Samuel, il bouge beaucoup quand même.
Oui.
Ah oui. Et c'est peut-être pas très pratique quand tu fais tes devoirs d'avoir Samuel juste à côté. Bientôt, ici, le campement, le bidonville, il va être cassé. Qu'est-ce que tu penses de cette expérience ?
Oui, ça m'inquiète un peu. On ne sait pas où on va y aller.
Tu ne sais pas où tu vas aller et puis l'année prochaine, tu veux retourner dans la même école ?
Oui. C'est elle déjà l'inscrite et l'autre école. Au sixième.
Ouais, tu es déjà inscrit.
Oui, elle est déjà inscrite au collège. Les grandes filles.
Et oui.
Elle a changé l'école.
Elle est déjà inscrite au lycée.
Oui.
Voilà.
Et le lycée.
Et toi, tu es déjà inscrit aussi, hein, Samuel ? Tu es inscrit à l'école ?
Oui.
Tout le monde est inscrit.
Non, pour eux, parce qu'un peu.
Oui. Bien. Merci, Rebecca. Voilà, on a terminé.
Voilà. Voilà, on a eu un petit problème de son, le son
de l'enregistrement était un peu faible, donc dans le son dans le studio était un peu
fort.
C'était un peu les deux extrêmes. Bon,
alors
voilà.
Si vous avez pas tout bien entendu et ça peut passer en vidéo, donc vous aurez le son et l'image. Ce coup-là, je ne me trompe pas, c'est sur le site d'Amnesty.
C'est sur le site d'Amnesty aussi.
Vous tapez Rome et vous avez encore d'autres témoignages.
Il y a une solution plus simple, même ils tapent YouTube, ils tapent Rome et
voilà, ils vont trouver ce petit reportage.
C'est pas difficile à trouver. Mais voilà. Bon,
donc je vous rappelle, ce camp a été expulsé en juillet. Voilà. Bien. Donc on ne sait pas où sont tous ces jeunes.
Non, mais bon, c'est toujours le problème. C'est toujours le même calvaire qui continue pour eux de toute façon, de camp en camp et de etc. D'expulsion en expulsion et de bon bref. Tout ce qu'on vient de vous expliquer. Oui.
Non, je veux juste dire pour les connaisseurs de musique, c'était les Ted Red qu'on entendait derrière.
À la fin, oui. C'est des amis de Isabelle. On sait que voilà, on pourra inviter les Ted Red grâce à elle. Elle a leur contact.
Nous, on aime bien aussi.
Voilà, bon.
Ouais, surtout leur dernier album, c'est un anti-facho, il est bien.
Bon, oui, anti-facho. Donc, on va quand même passer un petit peu de musique. On n'a pas encore fait de pause musicale. C'est une dernière fois, on les fait si tard. On va peut-être en faire qu'une seule, d'ailleurs. Je crains fort qu'on n'ait pas le temps d'en faire une deuxième.
Et après,
c'est Sabine.
Allez voir Spartacus et Cassandra.
Exactement.
C'est un très, très, très beau film.
Et après, c'est Sabine qui va pousser son coup de gueule.
On va passer à un chanteur qu'on n'a jamais passé.
On en reparle après. Qu'est-ce que je pourrais dire.
Allez, vas-y, Rodin.
J'ai pas l'image, j'ai pas le son. Lèvres se brûlent à une question. Pour quelle bonne raison faudrait-il mourir pour toi, pour toi, pour toi? Ça sent la haine, ça sent le sang, le sacrifice et la démence. Pour quelle bonne raison faudrait-il mourir pour toi, pour toi, pour toi? Je regarde en l'air, mais jamais.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, on vient d'écouter Paul Person. On disait, on va vous faire un petit piège avant, et c'était qui? Bah, c'était quelqu'un qu'on aime bien, Ronan et moi, donc on le repasse régulièrement dans l'émission, il passe pas souvent à la radio. C'était le dernier CD de Paul Person, et j'ai oublié le titre du morceau, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, c'est pas grave, c'est le dernier disque de Paul Person, voilà.
Mais moi, je vais te rattraper là-dessus.
On va savoir, Ronan, le
pour
dernier.
Quelle bonne raison?
Pour quelle bonne raison, voilà. C'est le dernier CD de Paul Person qui est sorti cette année ou l'année dernière?
L'année dernière,
voilà.
À savoir qu'on a, avec Didier, on a que deux CD. On a un CD de Paul Person. Et l'autre, c'est l'hommage à Bob Dylan.
C'est pas vrai, il y en a beaucoup plus.
On a que deux CD, en fait.
Vous êtes tous des mauvaises langues.
Faites des dons à Didier et à Ronan. Amenez des CD.
Non, les croyez pas. C'est que des mauvaises langues, les gens autour du micro ce soir. On a plein de CD.
Je vais vous dire la vérité. À chaque fois, j'oublie un CD et je prends celui que j'ai dans la voiture.
Voilà, donc c'est toujours les mêmes.
Mais on aime bien Paul Person et Paul Person passe pas souvent à la radio. Voilà.
Sabine.
Sabine voulait nous pousser un coup de gueule.
Je le vois dans 15 jours, Paul Person, en fait, mais bon.
En concert?
Ouais.
Encore?
Autour de la guitare, ils font un truc avec...
Bon, on en parlera.
Émission musicale après Amnesty.
On s'égare.
Alors moi, je veux pousser un coup de gueule ce soir parce que j'ai entendu aux alentours du 21 septembre.
Oh, t'es précise.
Oui, parce que ça s'est fait le 21 septembre. Et sur le coup, j'ai cru que c'était une grosse blague et une farce, mais pas du tout. Donc, pour ceux... On n'en a pas trop entendu parler. En même temps, je suis en panne d'Internet, donc je ne sais pas trop si on en a parlé beaucoup ou pas. Enfin, j'espère qu'on en a un peu parlé parce que Faisal bin Hassan Trad, ambassadeur de l'Arabie Saoudite, a été nommé le 21 septembre comme représentant à la tête, en fait, du panel du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Voilà.
Et alors, donc, quel est ton problème?
Il a été élu en toute discrétion au mois de juin, sans qu'il y ait aucune information de données. Et c'est lui qui va être en charge de désigner les fonctionnaires qui vont édicter les standards internationaux en matière des droits de l'homme.
Et rappelle-moi de quel pays il est déjà?
Arabie Saoudite. Ah, c'est quand même le pays où on viole les droits humains, mais alors sans arrêt. Ou les droits humains, enfin les droits de l'homme, parce que les femmes n'en ont pas beaucoup. Hein.
Ah, mais c'est homme avec un grand H.
On les viole allègrement aussi. Je m'entends pas. Et voilà. Donc,
tu vois ça avec ta voisine parce qu'elle m'a demandé de descendre tout à l'heure le son.
C'est bon, ça y est, on s'entend mieux.
Donc, moi je ne comprends pas, je suis très en colère. Je me dis qu'une organisation telle que l'ONU qui ne puisse pas réagir et que personne n'ait osé se confronter et dire non à ce monsieur, moi je trouve que c'est grave. Hein, c'est un comble, c'est vraiment un pays qui a été désigné comme étant l'un des plus répressifs du monde par les ONG de défense des droits de l'homme.
Oui. Hein. Dont Amnesty,
le dossier de la pétromonarchie wahhabite, par ailleurs accusé de financer des mouvements islamistes radicaux, des restrictions des libertés d'expression, des restrictions des libertés d'association, de liberté religieuse, des procès inéquitables, des discriminations envers les femmes et la minorité chiite, qui exerce la torture, qui exécute tous les deux jours une personne. Enfin bon, voilà, c'est moi je
ça fait partie des
j'en perds mon latin.
Ça fait partie des méandres, je suppose, de l'administration onusienne pour arriver à ce genre de situation.
Là, on est allé trop loin. Là, je pense qu'on a passé un cap et c'est grave.
Enfin, je peux te rassurer sans te rassurer, mais ça a fait le buzz immédiatement sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui ont protesté.
Ça n'a pas suffi parce qu'au niveau des Nations Unies,
on en a pas assez parlé au niveau des médias.
Non, mais c'est pas les ONG qui décident. Amnesty a un siège de représentant au niveau des droits l'homme à l'ONU, mais en même temps la voix d'Amnesty ne porte pas à décision au sein de l'ONU, malheureusement.
Bien sûr, mais au niveau de l'ONU, c'est quand même passé.
Oui, c'est passé.
Alors, c'est quand même
c'est passé,
impressionnant,
mais...
parce que c'est censé représenter...
C'est passé, mais chez nous, ça passe pas.
Et c'est censé défendre quand même les droits humains à travers le monde. Et là, cet ambassadeur...
on a du mal à croire à son honnêteté, voilà.
Moi j'ai vraiment cru que c'était
une blague,
et c'est vraiment... Il y a un directeur de l'ONG, Hillel Neuer Estime, dans un communiqué, qu'il est scandaleux que l'ONU ait choisi un pays qui a exécuté plus de gens que Daesh, que l'État islamiste. Cette année, pour présider au panel du Conseil des droits de l'homme. Il a ajouté que les pétrodollars et la politique l'ont emporté sur les droits de l'homme, tout en soulignant qu'une telle décision remettait en cause la crédibilité de l'ONU. Et je suis
c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est la crédibilité.
Avec lui. Parce que là, franchement, c'est pas possible. Quoi.
Bah, notre président, il est venu, il est allé en Arabie Saoudite il n'y a pas trop longtemps. Il n'a pas beaucoup parlé aussi de droits humains, si je me rappelle
qu'il
bien.
Pendant qu'il y était, ils ont exécuté 4 ou 5 personnes, malheureusement. Donc, parmi tout, il bafoue allègrement les droits de l'homme. La discrimination à l'égard des femmes, c'est une catastrophe. La torture, la liberté d'expression, le harcèlement des jeunes filles, c'est d'actualité. Le fait qu'elles ne puissent pas conduire, c'est d'actualité. Enfin,
qu'elles ne puissent pas faire du vélo non plus.
Et je crois qu'elles peuvent faire du vélo accompagnées.
Accompagnées ?
Il n'y a pas longtemps.
Ou alors c'est en Iran. Je confonds peut-être avec l'Iran.
Accompagnées par un homme.
C'est en Iran.
Faut qu'elles soient accompagnées par un homme. Le droit de vote est permis pour les femmes à partir de 2015 aux élections municipales.
Elles vont pouvoir se présenter aux élections municipales de cette année.
Ils leur est permis de participer aux Jeux Olympiques, mais ils sont en train d'essayer de faire des Jeux Olympiques hommes et des Jeux Olympiques femmes. Faut pas mélanger, faut pas déconner. Pareil dans les avions, j'ai peu de temps donc je vais. Il est permis avec autorisation d'un tuteur pour une femme de voyager, d'étudier, d'avoir un travail approprié, d'ouvrir un commerce, être avocate mais pas d'accès aux tribunaux. Tout ça avec l'autorisation d'un tuteur. De faire du vélo avec un parent, il faut que ce soit un homme. C'est difficile de divorcer. En général, c'est l'homme qui demande le divorce. Il est interdit de conduire une voiture, d'être dans une voiture conduite par un homme, autre qu'un employé ou un parent proche, de dévoiler les cheveux et le corps, port d'une abaya, robe couvrant tout le corps. Il est interdit pour les femmes d'aller au restaurant, seules, avec des copines, c'est même pas la peine, de prendre des transports en commun, de se promener dans un parc, d'aller à la plage, avec un homme. Bon, voilà. On attrape les cheats, on les met en prison. On est dissident, on va en prison. Il y a d'ailleurs, je vous demande d'aller signer parce qu'il y a Ali Mohamed Al-Nimir, neveu de l'un des plus fervents opposants au régime, qui était mineur lorsqu'il a été arrêté en 2012. Il avait 17 ans. Et il a été arrêté tout simplement parce qu'il est cheat et parce qu'il a participé à une manifestation.
Oui.
Dans la région.
Il est menacé d'être
décapité.
Décapité et crucifié. Et pour la je vous jure que je n'invente rien. Dans la condamnation, son corps doit être condamné. Elle doit être laissée à la putréfaction.
Voilà. Son corps sera ensuite monté sur une croix et exposé publiquement jusqu'au pourrissement de ses chairs. Et ce mec-là, il est nommé. Je suis en colère, je le dis.
Ah, ça, on avait compris.
Allez signer la pétition pour Ali Mohamed.
Pour l'instant, ils ont reporté ça.
Mais dis-nous où elle est la pétition.
Alors, vous allez sur.
Il y en a sur plein d'autres.
Il y a sur change.org, elle y est aussi.
Il y en a sur Internet. Je crois sur Amnesty.
Il faut y aller parce que ça peut être d'un moment à l'autre.
Il y a la pétition sur amnesty.fr, bien sûr, il faut aller la signer.
Ça peut être d'un moment à l'autre.
Voilà, tout à fait.
Et montrer notre horreur devant des textes et des paroles aussi barbares.
Il est clair que les intérêts diplomatiques et économiques, ils passent. Vous m'excuserez, avant les droits de l'homme.
Ah bah
ça,
oui.
Si c'était l'inverse,
l'état du monde ne serait pas ce qu'il est.
Parce qu'il a du pétrole et de l'argent.
Et on n'aurait pas d'émission de radio.
Ils ont quand même refusé.
C'était l'humour.
Lorsqu'il y a eu l'enquête avec Amnesty International, ils ont quand même refusé aux enquêteurs.
Oui.
D'agir.
Oui.
Hein.
Oui. Ils ont fermé les portes.
Voilà, ils ont fermé les portes. Donc, on est très représentés là. Là, franchement, j'avoue.
Bah, moi, je vous propose, parce que c'est vrai qu'on a quand même quelques petites bonnes nouvelles.
Je voudrais juste dire un truc sur l'Express.
Bon, tu peux éteindre la lumière.
J'avais plein de trucs, mais là
Sabine ne décolère pas.
Donc, l'Express qui cite l'Arabie Saoudite promue par l'ONU. Le début de la fin des droits de l'homme. Et on voit une photo où effectivement quelqu'un se fait on l'imagine. Voilà. Et c'est ça, le début de la fin des droits de l'homme, pour moi, c'est tout à fait ça. Qu'il ce mec-là soit nommé pour moi.
Non, c'est mais ça. Bon, c'est malheureusement une défaite pour nous, mais il faut qu'elle soit provisoire, il faut que ça change.
On va lui rappeler à chaque fois que, voilà, effectivement, la seule chose qu'on peut faire, c'est lui dire, mais attendez, vous êtes là, ben, faites bouger les choses chez vous, mais c'est vrai que ça nous fait vraiment mal.
Une petite info pendant qu'on parle aussi, qu'on vient de parler de l'Arabie Saoudite, on vous a parlé d'un autre cas, à part cette personne qui est condamnée à mort, là, ce jeune, d'une autre personne qui est un opposant d'opinion au régime. Raif Badawi. Alors, cette personne est condamnée à être fouettée tous les vendredis depuis plusieurs mois. Pour l'instant, il n'y a eu qu'une seule séance effective. Et depuis plusieurs mois maintenant, depuis le mois de juin, je crois, au début du mois de mai ou du mois de juin, je ne sais plus.
Janvier, peut-être.
Enfin, mais sa condamnation a été confirmée.
Sa condamnation à 5000 coups de fouet, ou je ne sais plus combien en tout. 1000 coups répartis sur X séances le vendredi.
Il devait recevoir 50 coups de fouet pendant 20 semaines.
Et donc, pour l'instant, il n'en a eu qu'une seule. Et chaque vendredi, pour l'instant, c'est remis. Donc, il est toujours en prison. On continue à agir pour lui. Hein, sa femme a longuement...
Elle est réfugiée au Canada.
Il y a un témoignage de sa femme
sur Amnesty. Elle a été accueillie par plein de sections d'Amnesty, dont Amnesty à Paris il y a quelques mois. Enfin, c'était juste avant l'été. Et donc, il y a toujours une action pour lui sur Amnesty. Et j'ai découvert récemment, c'est pour ça que je vous donne l'info, que si vous avez, je pense que la plupart d'entre vous l'ont, si vous avez une page Facebook, vous tapez dans la recherche d'amis, vous tapez son nom. Alors, je vais vous dire comment ça s'écrit, tout simplement. R-A-I-F. Plus loin, Badawi, B-A-D-A-W-I, B-A-D-A-W-I. Vous le demandez comme ami. Il a encore la possibilité, effectivement, de se connecter sur Facebook. Il a une page. Et moi, il m'a répondu en 3 minutes. Et il m'a dit, OK, bienvenue, etc. Et on a commencé à échanger quelques messages. Donc, c'était aussi un moyen de le soutenir, parce qu'il est au fond de sa prison. Il est malade actuellement. Il constate que chaque vendredi, ses séances de torture ne sont pas mises en application. Donc, il espère que ça va continuer.
Faut continuer.
Et il espère surtout sortir de prison. Il est toujours emprisonné dans quelque part en Arabie. Je ne sais plus où, enfin, peu importe. Mais n'hésitez pas, si vous avez Facebook, prenez-le comme ami. Plus il va recevoir de messages, il est très conscient de tout ce que fait Amnesty pour lui, mais plus il va recevoir de messages et plus il va recevoir d'expressions de sympathie, mieux ça lui remontera le moral. Donc voilà, on peut le prendre comme ami. Moi, j'ai passé l'info à plein de gens. Et voilà, donc utiliser Facebook aussi pour ça, c'est une façon intelligente de défendre les droits des gens. Voilà.
Et elle est signée pour Ali Mohamed Baguir.
Lui,
ça peut être d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. Donc allez-y, signez.
Bien, après l'Arabie Saoudite et
on suivra l'affaire.
On continuera de cette manière.
Parce que le temps passe, il nous reste un quart d'heure. On va vous parler quand même d'un sujet qui devait nous prendre une grande partie de l'émission et qui va en prendre beaucoup moins. Mais c'est pas grave, on y reviendra.
On continuera la prochaine.
Qui est la crise des réfugiés. Bien évidemment, on entend parler depuis plusieurs semaines maintenant de la crise des réfugiés suite à cette photo dramatique d'un petit enfant syrien retrouvé noyé sur une plage. En Turquie, voilà, merci, je cherchais le nom, en Turquie. Bon, il faut juste rappeler que cette image, évidemment, est dramatique, bien sûr que ça nous a tous soulevé le cœur, mais il faut rappeler qu'il y a des milliers d'enfants, dans son cas, qui sont déjà morts en Méditerranée depuis quelques années, et que ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle, et qu'Amnesty, encore une fois, n'a pas attendu que ça fasse la une de l'actualité dans des conditions aussi dramatiques pour sonner la cloche des dirigeants par rapport à ce scandale des réfugiés et d'expliquer que c'était tout à fait inadmissible ce qui se passait. Alors bon, c'est un peu difficile, j'avais prévu de vous parler de beaucoup de choses, mais c'est un petit peu difficile effectivement de vous parler de tout ce que je voulais faire. Je vais faire juste une approche. On va vous donner quand même quelques définitions, parce que dans la tête des gens, c'est pas clair entre les migrants, les demandeurs d'asile et les réfugiés. Alors tout simplement, un migrant est une personne qui quitte son pays pour aller vivre sur un autre territoire pour de multiples raisons, et ce, de façon temporaire ou permanente. Certains migrants se déplacent de leur propre gré, d'autres y sont forcés, notamment en raison d'une guerre ou de persécution. Deuxième définition, un demandeur d'asile est une personne qui a quitté son pays en quête d'une protection internationale, mais qui n'a pas encore obtenu le statut de réfugié. Il ne peut pas être renvoyé de force dans son pays pendant la procédure d'examen de sa demande d'asile. De plus, une personne ne peut être renvoyée de force dans son pays si sa vie ou sa liberté y est menacée. C'est le principe de non-refoulement. Enfin, les réfugiés, et c'est plus principalement sur cet aspect-là qu'Amnesty travaille, le réfugié est une personne qui a fui son pays parce qu'elle craint avec raison d'y être persécutée en cas de retour ou du fait de son identité, son origine ethnique, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social, de ses convictions religieuses ou de ses opinions politiques et dont le gouvernement ne peut pas ou ne veut assurer la protection. À la différence d'un demandeur d'asile, le statut de réfugié lui a été reconnu. Alors, ce qui se passe à l'heure actuelle, effectivement, en Europe, c'est principalement un afflux de gens qui demandent le statut de réfugié. Et ce sont principalement, pas uniquement, mais ce sont principalement des Syriens. Il est évident que dans la situation actuelle de la Syrie, avec les horreurs de la guerre qui s'y produisent, les gens qui fuient la Syrie à l'heure actuelle tombent automatiquement dans le statut de demandeur d'asile en tant que réfugié politique. Ça a été défini par la Convention des réfugiés de 1951. Bon, on en a déjà parlé dans ces émissions, on ne va pas revenir dessus. Vous pouvez trouver toutes les informations sur Internet, mais là, c'est tout à fait caractéristique. Et ce statut a été défini en 1951 après la Deuxième Guerre mondiale pour effectivement protéger les gens qui étaient dans des situations de guerre absolument insupportables. Et tout simplement, ces gens-là cherchent à sauver leur vie. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et encore une fois, il ne faut pas retourner la situation en disant est-ce que ces gens-là ont le droit de venir ? Ces gens-là doivent venir parce que s'ils restent chez eux, ils meurent. Voilà. C'est tout simplement ça. Donc, il n'y a pas de tergiversation plus compliquée. Oui. Effectivement, il y a Edith qui montre quelque chose en même temps. Donc, bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que de toute façon, la plus grande partie des réfugiés à l'heure actuelle sont dans les États qui sont limitrophes de la Syrie. J'ai les chiffres là quelque part.
95%.
Voilà, oui, 95% des réfugiés sont dans les pays limitrophes. À l'heure actuelle, il y a plus de 4 millions de réfugiés de Syriens et qui sont enregistrés dans les pays frontaliers. Il y en a près de 2 millions en Turquie. Il y en a plus d'un million au Liban. Quand on voit la taille du Liban, ça représente 25% de sa population à l'heure actuelle. Il y en a près de 700 000 en Jordanie. Il y en a plus de 200 000 en Irak et 132 000 en Égypte. Et à l'heure actuelle, nous, on est à quelque chose comme 80 000, en tout et pour tout, pour l'Europe. Je n'ai pas le chiffre sous les yeux, mais ça doit être ça. 80 000, on envisage d'accueillir 80 000 réfugiés. Je veux dire que c'est honteusement ridicule par rapport à la situation réelle de ces pays-là. Et encore une fois, c'est par rapport à des pays qui n'ont pas du tout les moyens financiers qu'à l'Europe. La population du Liban, en même temps, je lis sur une deuxième feuille. La population du Liban a augmenté de 26% depuis qu'il y a la guerre en Syrie. C'est comme si la France accueillait 17 millions de personnes. Donc on en est bien loin. Et ça me fait, alors quand je préparais le dossier que je vais pas faire, du moins pas cette façon-là tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Quand je préparais le dossier, j'ai repris la citation dans la chronique. Je vous dis, je parle tous les mois de la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty. Abonnez-vous, vous avez le formulaire d'abonnement en ligne sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Et il y a tout un petit texte que je vais pas vous relire, mais de Jean-François Dubost, qui est le responsable tout ce qui est problème de migration et de réfugiés pour Amnesty France, et qui dit dans son petit texte de présentation, quel pitoyable tableau que celui des responsables européens dirigeant un espace de 508 millions d'habitants, 28 États, première puissance économique mondiale, qui rechignent, pinaillent, opèrent des transactions de comptables autour du nombre de personnes à accueillir, pourtant si faible. Comme si assurer la prise en charge de 60 000 personnes, dont 40 000 déjà présentes sur le sol européen, représentait une invasion, constituait une entreprise insurmontable. Ça, c'est juste effectivement pour remettre les pendules à l'heure et tout le bourrage de crâne qui nous est fait par certains organismes et certains partis politiques et certaines choses comme ça. Encore une fois, ces gens-là et ces enfants et ces femmes et tout ce qu'on veut, etc., cherchent tout simplement à se protéger et à sauver leur vie. J'ai vu, et ça me paraît tout à fait intéressant, j'ai vu ça sur Internet hier, sur une page Facebook de je ne sais plus qui, d'un ami d'Amnesty, parce que j'ai principalement des amis Amnesty sur Facebook, qui a publié une photo. C'est une photo qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des bateaux qui sont... C'est une vraie photo. Hein. Il y a des bateaux qui sont pleins de réfugiés. On voit qu'ils sont plus grands que les embarcations qu'on voit à l'heure actuelle qui cherchent à traverser la Méditerranée et qui traversaient la Méditerranée, mais cette fois du nord vers le sud. Ça ressemble un peu à des cars ferry, mais couverts de personnes. Il y en a vraiment partout. Et ces gens-là, c'était des réfugiés d'Europe, des Français entre autres, qui partaient parce que c'était la guerre avec les nazis, enfin, etc., etc. Et qui partaient où ? Dans les pays du Maghreb. Parce qu'ils cherchaient la même chose que les Syriens à l'heure actuelle. Ils cherchaient à se mettre à l'abri, tout simplement. Donc il ne faut pas oublier que ce que nous, on trouvait normal de faire entre 1940 et 1945, c'est exactement ce qu'on doit faire. Mais ce n'est même pas une question de devoir. C'est simplement une question d'évidence. Ces gens-là, effectivement, ils cherchent à un abri, de toute façon, pendant que leur guerre s'étripe entre le fou furieux de Bachar el-Assad et les fous furieux de l'État islamique. Petite parenthèse, Amnesty n'a pas attendu le déclenchement de la guerre en Syrie pour protéger protester contre les violations des droits humains en Syrie. Sabine parlait de l'Arabie Saoudite, mais en Syrie, ce n'était pas beaucoup mieux. Je suis allé voir sur le site des sites internationaux d'Amnesty, les premières protestations contre les violations des droits humains en Syrie, ça remonte à 1971. Voilà. Depuis 1971, on dit que le régime syrien est un régime inadmissible. On n'a pas attendu, effectivement, que malheureusement, que ça dégénère comme ça. Bon, fermons la parenthèse. Mais encore une fois, c'est
mais
juste
il a
ça.
Il n'a pas été promu à l'ONU.
Il n'a pas été promu à l'ONU, c'est
là,
vrai.
Ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Là,
et on dénonce aussi.
C'est vrai.
Donc, et voilà. Elle est repartie.
Et donc, encore une fois, s'il n'y avait pas la guerre là-bas, les gens ils seraient tout à fait en mesure de rester chez eux et ils préféraient, pour l'énorme majorité d'entre eux, continuer à mener une vie à peu près normale chez eux que de se retrouver dans une situation aussi déplorable en Europe et de se faire refouler, enfin, etc., etc. Bon, on va aborder le dossier, je pense, dans la prochaine émission, oui, parce que là, c'est plus du tout réaliste d'en parler plus longuement. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que encore une fois, nous, on a encore une fois, comme on n'a pas attendu de parler de la Syrie alors que ce n'était pas encore à la mode.
Et même sur Evro, on a fait des manifestations.
Voilà, c'est qu'on a fait des actions. Bon, SOS, il y a une campagne qui est toujours en cours, d'ailleurs Amnesty, qui est remontée il y a plus de 3 ans maintenant, qui s'appelle SOS Europe. C'est par rapport à tous ces gens qui cherchent effectivement à se réfugier dans nos pays et qui viennent de pays en guerre, qui viennent de pays où les droits humains sont bafoués, comme l'Érythrée, enfin, etc., qui est un régime dictatorial absolument insupportable. Et ces gens-là, effectivement, meurent sur des bateaux précaires, enfin, tout ce qu'on sait, et que ces gens-là ont effectivement le droit d'être protégés par les pays européens. Encore une fois, les pays européens ont signé tous les textes de droit d'accueil des réfugiés. Ils ont signé tous les textes. On leur demande juste d'appliquer leur signature. Et donc, bon, c'est une première chose. Nous, on a fait des actions. Effectivement, on était dans la rue au mois de juin, pour ceux qui sont venus nous voir. Bon, encore une fois, ce sont des choses qui sont remontées à Paris, qui sont remontées auprès des autorités concernées. Et on continuera. Il y a une action qui va commencer là, on vous en reparlera, qui est une action pour les disparus en Syrie, qui va être un gros dossier dans les mois à venir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un pays est en guerre que, encore une fois, que les gens doivent disparaître, être torturés, sans savoir où, etc. Donc, il y a toute une action sur les disparus en Syrie qui commence là maintenant et qu'on va vous relayer dans les jours qui viennent. Et bon, et on va reprendre ce dossier-là encore une fois dans les prochaines émissions. Mais tout ce qu'on raconte sur est-ce qu'on doit les accueillir, pas les accueillir, est-ce qu'on va être envahi, pas envahi, est-ce que, pour parler tout simplement, tout ça, c'est des conneries, c'est tout. Et c'est juste une question de devoir d'humain vis-à-vis d'un autre humain. Ces gens-là sont en danger de mort. C'est tout à fait normal qu'ils viennent se réfugier chez nous.
Voilà. Et demander à ce que l'Evreux accueille des réfugiés.
Voilà.
Que la Évreux, France.
Voilà. On a fait une lettre au maire. On va réitérer notre lettre au maire.
Vous êtes d'accord pour partager un petit morceau.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la Syrie. Moi, je me rappelle les premières manifestations qu'on a fait il y a un an. Tout ça, on était à Évreux. On était quoi, une dizaine, quoi.
Oui.
Une dizaine. Il n'y avait personne.
Déjà, l'année dernière, on avait allumé des bougies pour la Syrie. Je me rappelle.
Par rapport aux 2 ans.
On l'a fait devant la mairie Évreux. On était une dizaine. Et encore, c'était pratiquement que des sympathisants Amnesty. Alors qu'aujourd'hui, tu as tout le monde qui en parle et tout, mais nous, ça fait un moment qu'on se voit.
Mais tout le monde en parle parce que les gens approchent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand c'est loin, tout le monde. Ben non, c'est là-bas, on ne sait pas. Là, on voit les gens. Oh là là, ils sont là. Puis d'un seul coup, oh là là, ils sont hyper malheureux. Oh là là, on en veut
et
pas.
C'est vrai qu'il a...
voilà, ça devient n'importe quoi.
Et c'est vrai qu'il a suffi d'une photo, comme je disais tout à l'heure, alors qu'on le sait bien, quoi.
Les témoignages, on en a plein. On pourrait vous en donner plein, des gens qui souffrent.
Bien,
et
sûr,
qui
que
sont,
cette, bien sûr que cette et quand photo on parle, était dramatique, moi, mais bon, malheureusement, il y en a plein qu'on n'a pas vu. Hein.
Ce qui me rassure, c'est quand on parle aux enfants et qu'on essaye de leur expliquer un peu, la réaction des enfants, qu'ils viennent, on va les aider. On peut les accueillir. Voilà, les enfants ont encore cette humanité que certains adultes
parce qu'ils
semblent oublier.
Ils sont pas bouffés par les médias, par tout
parce
ce
que voilà,
entend.
On essaye de nous faire croire des choses.
Gardez
votre bon sens et votre humanité.
Qui vont nous prendre notre boulot, des trucs comme
puis
ça.
Puis les enfants, n'importe quoi. Puis les enfants, ils sont juste impressionnés par le malheur des gens. Ils se posent pas le problème de savoir si le petit copain il a le droit
c'est
ou s'il n'a pas le droit.
Mais
ils se posent pas ces problèmes-là.
Mais moi, je me demande si je vais venir à la prochaine émission parce que j'ai tout préparé.
Il y a plein de choses qu'on n'a pas. Une info, oui.
Les bonnes nouvelles,
allez,
c'est important.
Allez, on prend une respiration. Une bonne nouvelle.
On finit par une info locale et puis une bonne nouvelle pour finir pour Ronan.
Ah, je sais pas.
Mardi 9 octobre, retenez votre soirée du mardi 9 octobre. C'est mardi de la semaine prochaine. Donc, pas mardi là, celui qui vient. Le groupe les copains d'Amnesty, groupe de Louviers, Val d'Oreuil, organise une soirée sur le thème de la torture. Alors, ça va se passer...
D'information
sur la torture. Ça va se passer de 18h à 20h. C'est au foyer des Quatre Soleils, 14 rue du Pas des Heures à Val-d'Oreuil. Et cette soirée comportera deux axes. Dans un premier temps, Nathalie Berger, celle que vous avez entendu parler en début d'émission qui vous parlait de Chacun Hammer, médecin et responsable de la coordination USA à la section française d'Amnesty, et associée à la campagne mondiale Stop Torture, analysera les aspects géopolitiques de la pratique de la torture et ses conséquences. Ainsi seront notamment abordés les liens entre la torture pratiquée à Guantanamo et les exactions de Daesh, le problème de l'accord tacite des Européens pour l'usage de la torture par les agents de la CIA sur le sol européen. Il sera aussi question du droit des femmes. L'ONU et Amnesty International s'inquiètent des violations institutionnelles à l'égard des femmes. On refuse de l'accès à l'avortement, même pour des femmes enceintes à la suite d'un viol, alors que le Conseil des droits de l'homme et le Comité contre la torture de l'ONU admettent depuis plus de 10 ans que l'interdiction de l'IVG viole la Convention contre la torture. L'influence des groupes pro-vie aux USA, mais aussi des groupes analogues en Europe, très influents à Bruxelles, sera analysée. Voilà. Donc on vous rappelle, une soirée très intéressante, nous on y sera, c'est fait par Amnesty Louviers-Val-de-Reuil, vendredi 9 octobre, foyer des Quatre Soleils, 14 rue du Pas des Heures, Val-de-Reuil, c'est de 18 à 20 heures, l'accès est bien évidemment gratuit. Donc n'hésitez pas à venir, au contraire, c'est tout à fait intéressant, tout à fait formateur.
Primo Levi, c'est une superbe association.
Et Primo Levi, oui, enfin on n'aura pas le temps d'en parler ce soir. Ouais. Donc voilà, Renan, une autre bonne nouvelle.
On n'a pas le temps.
Si, une autre bonne nouvelle. Attends, encore 2 minutes. Allez, tu peux faire une bonne nouvelle en moins de 2 minutes, Renan. Tu en es capable.
Et j'ai pas... Ah oui, je suis capable de
voilà,
tout.
Voilà, une autre bonne nouvelle.
Aujourd'hui, je
dis... Et l'appel à l'action, censuré. Tant pis, on ne le fera pas aujourd'hui, on le fera la prochaine fois.
On ne m'a pas laissé, alors.
Non.
Alors déjà, alors, tu me parles de l'EGP. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je retourne juste mes papiers.
Et là, tu viens de perdre déjà 20 secondes.
Ben non,
c'est terrible.
Égypte, les journalistes d'Al Jazeera sont libres. À l'occasion d'une grâce présidentielle avant les fêtes de l'Aïd, les journalistes travaillant pour Al Jazeera, Mohamed Fahmy et Bahir Mohamed, ont été libérés mercredi 23 septembre. On continue. Une blogueuse vietnamienne libérée, arrêtée et condamnée en raison de ses prises de position, Tan Phuong Thanh, a été libérée le week-end dernier. À savoir qu'on avait travaillé pour elle en décembre 2014 dans les...
On lui a envoyé déjà plein de 10 jours pour finir. On l'a soutenue, elle n'était pas en bonne santé,
comme
on avait peur.
Comme quoi Amnesty, ça marche. On va pas dire, mais...
Belgrade, une marche de fierté sans violence homophobe. Pour la première fois en Serbie, aucun incident homophobe n'a été signalé pendant la marche des fiertés. Sous la protection policière, la marche avait mobilisé des centaines de personnes.
Bon, voilà.
Et
on a plein de bonnes nouvelles. Vous allez sur le site d'Amnesty aussi, amnesty.fr, vous avez une rubrique bonnes nouvelles. Notre prochaine émission, c'est quand j'ai la réponse, c'est le mardi 27 septembre. Octobre, 19h-20h. À bientôt.
Allez,
bonne soirée à tous.
Salut à tous.
Pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Les débuts de moi, je ne sais pas ce qui me retient de la mocher. Les jours où je suis fauché, lui décocher un crochet. Le premier pour atténuer sa haine, qui mijote en lui quand il bloque sur mes chaînes. Ça ne manque pas à chaque fois, car selon lui, si je suis ici, je suis forcément un clochard. Un qui me parle mal et qui m'envoie chier 5 fois à la maison chercher des papiers pour me scier. Qui me sort des erreurs plus que louches pour ne pas que je touche comme si je lui enlevais le pain de sa bouche. Fils, si tu ne veux pas m'énerver, raque-moi les fonds pour les 3 ans où j'ai cotisé. Ce spécimen n'est pas unique, et malheureusement depuis, une seule idée magique, je rêve d'éclater un type des acédiques, oui, éclater un type des acédiques, un bien comborné qui peut pas lâcher mon foot, je rêve d'éclater un type des acédiques, un type des acédiques, je rêve d'éclater un type des acédiques, un bien comborné qui peut pas lâcher mon foot, je rêve d'éclater un type des acédiques, je travaille 12 à 18